Alors cette semaine, je vous ai préparé un des épisodes que j'ai le plus aimé écrire sur ce podcast. Mais avant de commencer, je voulais passer un message à vous tous qui m'écoutez. On compte près de 1500 écoutes. Alors, j'aurais jamais cru arriver à ce stade. Peut-être que ça va évoluer et que ce chiffre va me paraître ridicule dans quelques mois, j'espère. Mais je voulais vous remercier pour votre soutien. Je voulais vous remercier pour les messages que je reçois de plus en plus régulièrement, qui me font très chaud au cœur. Et je voulais aussi remercier la vingtaine à peu près de personnes qui ont décidé de participer au podcast en faisant des voix off. Voilà, donc vous verrez que ce n'est pas moi qui lis les citations. Enfin, ce n'est plus moi. Je suis toujours dans la narration, je suis le narrateur. Mais voilà, j'ai voulu rendre ce podcast un peu plus vivant, lui donner une vitalité différente, un ton différent, et j'espère que vous adhérerez et j'espère que vous continuerez à me suivre. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à noter le podcast et à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelques-uns de vos proches. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Quoi qu'on puisse, à raison, lui reprocher la fougue et la témérité de son caractère, Sa Majesté Hassan Seni était un homme plein de sagesse, ivre d'enseignements philosophiques et incroyablement sensible à tout ce qui fait de l'homme un être social et politique. Il a l'esprit au bord des lèvres et qui qu'on soit, on y est naturellement suspendu. On lui attribue des phrases cultes, mais il y en a une en particulier qui lui colle à la peau. Pour échapper à la curiosité bien placée de ses interlocuteurs, et certainement par refus de transparence, il répète ceci.
Il vaut mieux ne pas savoir.
Sa Majesté Hassan Thani est un paradoxe à deux têtes. L'une, totem de la solitude qui incombe au sang royal, est anxieuse, se répète constamment que méfiance est mère de sûreté. Traque sans relâche quiconque met en péril son pouvoir ou l'intégrité du Maroc. L'autre est insouciante, sincère, presque naïve. Elle sacralise la conception de la parole donnée et accorde une confiance aveugle à qui veut bien lui tendre la main. Il est aussi vif à tuer la menace dans l'œuf qu'à fermer les yeux dessus. Alors naturellement, le monde s'interroge. Le journaliste qui s'entretient avec Sa Majesté pour écrire ses mémoires lui pose la question qui erre, timide, sur de nombreuses langues.
Pourquoi répétez-vous fréquemment « il vaut mieux ne pas savoir » ?
Parce que, pour ce qui me concerne, j'estime que j'ai mieux à faire que de me conduire avec un puisentier qui creuse pour savoir ce qu'il va trouver au fond. D'abord, ce n'est pas dans mon tempérament. Ensuite, ça me fait perdre du temps. Enfin, j'estime que ma fonction m'impose de couvrir la nudité des gens plutôt que de les dévêtir.
Une des nombreuses qualités qu'on ne peut ôter à Hassan Thani, c'est l'exceptionnelle intelligence politique, sociale, émotionnelle dont il fait preuve tout au long de sa vie. Si l'omniscience est une quête aussi vaine que ne l'est celle de la vérité pour l'humanité, Hassan Thani est pourtant doté d'une clairvoyance hors du commun. Ainsi, quelle ne fut pas la surprise du monde entier lorsqu'on apprend le nombre de coups d'État avortés qui ont été dirigés contre sa personne au cours de son règne. Dans ses mémoires, on l'interroge. Comment a-t-on pu porter atteinte à la personne de Sa Majesté sans que celui-ci, pourtant si méfiant, ne nourrissent de soupçons, lui qui voit tout, qui sait tout et qui a prouvé à maintes reprises sa terrifiante capacité à percer à jour les intentions de ses interlocuteurs, pour ne pas dire leurs pensées. Comment n'a-t-il pas vu venir la trahison de ceux qui lui étaient les plus proches ? À cette question, Hassan Thani répond la chose suivante, page 158.
Je vais vous confier une chose, mais pour la comprendre, il faut se mettre dans la place des croyants. Lorsque je suis parti en pèlerinage à la Mecque, j'ai emmené avec moi la plupart des officiers qui devaient être impliqués. Ensuite, dans le premier ou second coup d'État, nous nous sommes retrouvés à l'intérieur de la mosquée de la Mecque, un grand édifice carré. Là, sans même que je leur demande quoi que ce soit, ils m'ont tous répété serment de fidélité. Deux jours plus tard, nous nous sommes arrivés à la Médina. et à l'intérieur, ils m'ont encore renouvelé leur serment. Ils l'ont fait dans les deux lieux les plus saints et les plus sacrés de l'islam. Dans ce contexte, continuer de se méfier équivalait à ne pas faire confiance à Dieu. C'est exactement comme si vous décidez de remettre votre dossier à un avocat en choisissant de le surveiller pour être sûr qu'il s'en occupe bien. Voilà mon erreur. Mais en fait, ce n'est pas une erreur. En agissant comme ils l'ont fait, tout était permis à ces hommes. Mais si la même chose devait se produire encore, à la Mecque ou à la Médina, je ne changerais pas mon attitude. Je dirais à mon interlocuteur, « Bien, je te laisse entre les mains de Dieu. »
Fidillah, je te laisse entre les mains de Dieu. Les instigateurs du putsch de Srirat, alors même qu'ils préparaient l'insurrection, se sont joués de la foi d'un homme à des fins politiques. On pourrait crier à la naïveté du roi, comme beaucoup, dépassés par le constat d'une trahison aussi éhontée, le font. Mais l'on manquerait alors de justesse. Car ce qui a donné à la révolte militaire le temps de mijoter à l'abri du courroux royal, c'est la confiance inébranlable qu'un roi, pas moins homme que nous autres, pas moins croyant, a placé en la foi qui le berce et qui lui assure son pouvoir. Le coup d'état de Srirat est le premier séisme politique qui fait réellement trembler le trône de feu Sa Majesté Hassan Thani. Cet événement est vécu comme un réel traumatisme par le roi. On est le 10 juillet 1971. Tout le temps qu'a duré le règne de Hassan Thani, cette date a été celle de Eid al-Arsh, la fête du trône au Maroc, tradition adoptée sous feu Sa Majesté Mohamed Khams par l'initiative du peuple lui-même. En l'honneur de son 42e anniversaire, Hassan Thani accueille près d'un millier d'invités dans sa résidence d'été à Srirat, près de Rabat. La matinée est ensoleillée, les convives arrivent par vagues des quatre coins du monde. Le palais de Srirat est blanc comme neige. Le long de ses murs en pierre dansent les reflets immaculés du soleil. La grande cour à ciel ouvert, ses pavillons et ses tentes accueillent des personnalités tirées à quatre épingles pour cette occasion royale, et je pèse le terme. Parmi eux, on compte des figures politiques, allant d'ambassadeurs aux membres de la DGSN, les services secrets marocains, des cadres d'entreprise, des membres de la famille royale et des visages familiers de la couronne, amis, médecins royaux. Les festivités vont de train toute la matinée. On déjeune, on s'autorise une journée de quiétude, d'insouciance, pour célébrer un roi au sommet de sa gloire. Ce n'est qu'après l'appel à la prière qui marque le début de l'après-midi, lorsque le jour fatigué se met à pousser son char vers les écuries de l'Occident, que le drame survient. Sur les coups de 14h, en plein déjeuner, une horde d'officiers et de sous-officiers lourdement armés débarque dans le palais. Des dissidents ayant planifié un coup d'état et décidé à renverser le trône du roi. Aussitôt, le bruit des coups de feu se confond avec les cris stridents des invités qui tentent tant bien que mal de se mettre à l'abri. Certains d'entre eux tentent de fuir vers la plage qui borde la résidence. Mais balles et grenades leur fusent dessus. La trahison décoche des balles arbitraires qui vont ôter la vie à des innocents. Une centaine mourront, parmi lesquels le médecin très cher à la monarchie, Docteur Henri Dubois-Roquebert, à qui feu Sa Majesté Mohamed Khams avait confié sa fortune avant son exil forcé par les Français, pour qu'il la protège. Le médecin et professeur à la faculté de Paris tente de porter secours aux blessés lorsqu'il est sauvagement abattu. La liste de victimes de renommée nationale continue. Ahmed Behnini, ancien premier ministre, figure à abattre pour les forces armées royales. Omar Ghannam, directeur du centre cinématographique marocain. Un industriel français que Hassan Thani garde très proche, et on s'imagine pourquoi, directeur de la compagnie du sucre au Maroc, une industrie rayonnante. Et même un ambassadeur étranger, représentant le gouvernement belge au Maroc. Le palais de Srirat est le théâtre d'une véritable boucherie. Il y eut près de 200 blessés et plus d'une centaine de morts. Une centaine de vies dérobée pour la seule qui intéresse les forces armées royales, celle du roi. Selon ses termes exacts, la première émotion qui traverse ce dernier est
« De la honte devant un tel carnage et pour les sauvages qui l'avaient perpétré. »
Lorsque les 1200 cadets de la rébellion ont commencé à tirer sur la foule d'invités, le roi Hassan Thani s'enfuit, conduit quelques-uns de ses proches dans une autre pièce du palais, où il les met à l'abri. Soudain, le général Mitbouh le prend par le bras. Jusqu'à cet instant, rappelons-le, Hassan Thani ne connaît pas l'implication du général dans le coup. Il le comprend aussitôt, lorsque ce dernier lui lance avec inquiétude.
« Venez avec moi, il faut que je vous sauve. Nous devons aller voir Ababou. »
Là, le roi comprend que le général, qui a toujours eu toute sa confiance, est de mèche avec Ababou. Il réalise qu'il se trouve nez à nez avec un homme voulant sa peau. Dans la première interview qu'il donnera après les événements, Hassan Thani se confiera sur l'angoisse qui lui noue la gorge.
« Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'il m'entraînait dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. »
Il songe à ce moment-là qu'il peut mourir des mains du traître agrippé à sa manche. Mais il n'a pas le choix. Il le suit sans broncher. Puis lorsqu'ils se trouvent tous les deux à l'abri des regards dans un coin sinistrement calme du palais, Mitbouh, contre toute attente, se met au garde à vous. Hassan Thani est interloqué. Demeurer prudent, rester sur ses gardes, ne pas prendre le risque de brusquer un homme armé qui nous veut visiblement du mal, me paraît être la réaction la plus humaine à avoir dans ce genre de situation. Mais une fois de plus, Hassan Thani fait preuve d'un sang-froid à la limite de l'inconscience, ou du génie, ou un peu des deux peut-être. Rien, pas même la peur ne lui fait oublier qui il est. Il se sait roi, commandeur des croyants, souverain légitime, et compte bien le rappeler à Mitbouh. En quelques secondes, Hassan Thani cerne le langage corporel de son interlocuteur. Il fait la conclusion hasardeuse que le général ne semble pas décidé à le tuer, du moins pas en cet instant. Au comble de l'audace intellectuelle, une idée périlleuse lui vient à l'esprit. Il souhaite tester cette hypothèse, mettre à l'épreuve le semblant de fidélité à la monarchie dont Mitbouh a fait preuve tout au long de sa vie. En subsiste-t-il ne serait-ce qu'un fragment? Un fragment qui pourrait lui sauver la vie. À lui de le ressusciter, de raviver cette flamme chez le général. Pas dans l'optique de le gracier, loin de là. Le roi prépare sans doute déjà dans son esprit le sort funeste qu'il réserve à tous les traîtres, sans exception. Mais par instinct de survie. Car très franchement, à ce moment précis, sa vie ne tient qu'à un fil. Et s'il veut avoir une chance de se sortir de ce colloque singulier avec un homme armé, prêt à tuer des innocents pour faire tomber son trône à la renverse, il lui faut jouer de sa sensibilité, comme les plus fidèles servants de la monarchie se sont joués de la sienne. Hassan Thani lève la tête. Et tandis qu'un voile de sévérité vient racornir les traits de son visage, un césarisme inné vient creuser les ténèbres de ses yeux. Le commandeur de l'armée met son général au repos avec autorité. Il racontera en détail ce moment d'une tension inédite, où malgré sa crainte, il tente un coup de bluff.
« Non, je ne négocie pas avec un officier qui est sous mes ordres. » « Fais venir ton complice ici, si tu veux, moi je ne sortirai pas. »
Et là, contre toute attente, le général exécute l'ordre royal. Il le libère de son emprise, le regard teinté de crainte et de désarroi, et court chercher son complice. Lui, acteur principal du putsch, obéit au roi qu'il est pourtant en train d'essayer de destituer par tous les moyens. Certains crieront au miracle, mais quand on est marocain qui vit au Maroc, quand on connaît le rapport particulier du peuple à la monarchie, et quand on sait, comme Mitbouh au fond de soi, combien le rôle de Hassan Thani dans la protection d'un Maroc post-colonial dangereusement convoité par des gouvernements prédateurs sur la scène internationale, combien ce rôle est vital, Le retournement de veste du général est certes étonnant, mais n'a rien d'inexplicable. Sa Majesté dira lui-même dans ses mémoires que le général Mdbouh n'est pas celui qui a donné l'ordre de tirer sur des innocents. Selon lui, Mdbouh incarne le paradoxe d'un profond respect de l'institution monarchique et d'une volonté pressante de la faire voler en éclats. Quel que fût l'état de cette dualité pendant les faits, le roi affirme qu'il le connaît trop bien et que pour ces raisons, Mdbouh ne se serait jamais permis d'ouvrir le feu devant des personnalités aussi importantes. C'est Ababou, selon sa majesté, un homme plus téméraire qui aurait échappé au contrôle de Mdbouh. En voyant la tournure sanglante et inattendue pour le général que prennent les événements, il cède à la panique. À ses yeux, les choses sont allées trop loin. En attendant le retour de Mdbouh avec Ababou, sa majesté rejoint à nouveau ses proches, tirés d'affaire pour le moment. Plus tard, il décrira en détail la scène d'horreur que ses cinq sens ont marquée au fer rouge dans sa mémoire.
Des buffets avaient été dressés pour la réception, et j'entendais le bruit de la vaisselle, des samovars, de l'argenterie qui tombait à terre.
Ses proches témoignent, dans un palais de Srirat à feu et à sang, pleinement conscient des risques mortels qu'il encourt, submergé par le doute, la crainte que sa mort signe alors celle du Maroc, qui, rappelons-le, ne peut à l'époque se passer de la monarchie pour des raisons de stabilité politique, car dans un Maroc post-colonial ajourné dans son développement malgré lui, sur lequel louche avec avidité les yeux intéressés de pays voisins, l'institution monarchique protège l'identité marocaine. Le ventre noué par la crainte qu'on arrache le Maroc à sa poigne, certes toxique, possessive et même gloutonne, mais néanmoins importante pour le Maroc du XXe siècle. Qu'on lui dérobe son pouvoir pour qu'il tombe entre les mains instables et belliqueuses des militaires, malgré tout le tourment qui le traverse, Hassan Thani fait preuve d'une maîtrise de lui-même qui lui permet de faire des blagues. Oui. Bon, on reste sur un humour limité par une atmosphère assez tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus tard, alors qu'il raconte en détail les faits, il avouera avoir glissé quelques blagues par-ci par-là, entre deux prières, pour tuer le temps, en attendant le retour de Mdbouh avec Ababou, qui ne souhaite plus tuer le roi, mais négocier avec lui. Quand soudain, des soldats ouvrent la porte et débarquent en trombe dans la pièce où il a trouvé refuge. Un cadet s'approche de lui hâtivement et l'emmène à l'écart. Naturellement, cette idée n'a rien de rassurant pour Hassan Thani. Mais en remarquant le canon de fusil que le jeune homme pointe dans sa direction, il comprend qu'il n'a pas le choix. Alors pour le moment, il n'oppose aucune résistance. Tout de marche, quand soudain, le cadet se fige et regarde le roi comme on regarde quelqu'un d'important pour la première fois. La mort dans l'âme. Il s'écrie avec horreur.
C'est vous ? Mon Dieu, je ne vous avais pas reconnu. Jusqu'ici, je ne vous avais vu qu'en habit traditionnel et en uniforme.
Ce jour-là, Hassan Thani porte effectivement des vêtements aussi simples qu'une chemise de sport et un pantalon. Quand il comprend la perche qui lui est tendue, le roi la saisit et dégage brusquement le bras. Le jeune homme, dans la hâte, n'a pas identifié le visage de son souverain. Il s'agit d'un cadet de sa garde personnelle rapprochée. Page 160 de ses mémoires, Hassan Thani raconte le dialogue.
« Tu m'as reconnu ? Alors mets-toi en garde à vous. Où sont tes camarades ?»«
Ils sont là. Mais il faut que nous nous cachions, car beaucoup de gens pourraient nous tirer dessus. »
Sa Majesté lui demande de faire venir 3 ou 4 cadets de sa garde rapprochée. Le cadet s'en va quelques instants, cachant le roi dans un des rares coins sombres et calmes du palais de Srirat en cet après-midi sanglante. Il revient avec le reste de la garde royale. À la vue de leur souverain, une vague de soulagement les submerge. Fébriles, ils se répandent en excuses. Sa Majesté les regarde chacun, droit dans les yeux. Et dans leurs regards incertains, il lit une loyauté indéfectible qui lui donne de l'espoir. L'espoir de s'en sortir vivant. L'espoir de se maintenir sur le trône. L'espoir de perdurer. Il aura alors une réaction qui, à nouveau, surprendrait naturellement non seulement quiconque n'est ni marocain ni musulman, mais quiconque n'est tout simplement pas Hassan Thani et ne possède pas son sang-froid. Avant de t'en révéler la nature, rappelons à nouveau qu'elle est orchestrée dans un palais de Srirat à feu et à sang. Le roi sait qu'il est seul, qu'il ne peut faire confiance à personne, qu'une parole donnée n'a que peu de poids et ne suffira probablement pas à le sortir de cette situation. Visé par un complot d'une ampleur énorme qui implique un écosystème considérable sur lequel repose tout le royaume, l'armée, il doit certainement penser à la relation presque filiale qu'il entretient en tant que monarque avec un certain nombre de Marocains, dont ces hommes qui lui font face, et qui à maintes reprises par le passé ont risqué leur vie pour le protéger lui et ce qu'il représente. Mais surtout, il pense à ce qui les unit vraiment, tout un chacun, à l'argument que la dynastie dont il est issu a toujours utilisé pour se maintenir au pouvoir et synthétiser le respect, l'admiration, pour certains la sacralisation certes, mais néanmoins pour tous la considération du peuple marocain envers la famille royale. C'est la foi. Comme il le racontera dans ses mémoires, Hassan Thani dit aux soldats que ce qu'ils ont fait de l'armée royale est indigne de ce qu'il attend d'eux en tant que roi. D'après le témoignage de Hassan Thani lui-même, ils auraient tous éclaté en sanglots, déversant leur honte à chaudes larmes. Le roi les invite alors à lire en chœur, d'une même voix, Surat al-Fatiha, l'ouverture du Coran. Les invités, qui étaient gardés prisonniers la face contre terre, se sont relevés et tous les cadets les ont rejoints en criant « Aïcha al-Malik, vive le roi !» L'avantage, qui est aussi un inconvénient mortel quand on s'appelle Hassan Thani, c'est que le sentiment que l'on inspire aux autres ne connaît pas de demi-mesure. On peut nous être hostile autant qu'on peut se montrer dévoué à notre personne. Ainsi, le souverain a pu compter sur l'indéfectible loyauté de sa garde personnelle pour le mettre à l'abri dans un dressing room jouxtant la salle du trône que ni Mdbouh ni Ababou ne connaissent. Il s'y tint caché jusqu'à l'arrivée des unités armées fidèles à Hassan Thani, car il y en avait. Car ce que les forces armées royales n'ont pas prévu, c'est que pendant les 12 heures de crise, toutes les garnisons du royaume sont restées fidèles à la couronne. La rébellion se limite en effet à la capitale, qui est en total déphasage avec le reste du royaume. Partout ailleurs, par-delà les murs de la ville, des milliers de soldats ont reçu un signal d'alerte et sont prêts à mourir pour la couronne. Le Maroc tremble sous les pas impétueux des renforts qui arrivent bientôt aux portes de Rabat. Mais Mdbouh est allé trop vite en besogne, si vite qu'il se brûle les ailes. D'après Hassan Thani lui-même, il aurait marché avec l'Égypte. Pas celle d'Anwar al-Sadat, qui est élu président du pays en 1971, donc la même année, et qui est un grand ami du roi Hassan Thani, mais celle de Nasser, qui vient de quitter le trône présidentiel un an plus tôt. La relation que ce dernier entretient avec Hassan Thani est conflictuelle, et c'est le moins qu'on puisse dire. Selon Sa Majesté Hassan Thani al-Rahmo, Nasser aurait usé de tous les moyens pour prendre le dessus sur le monde arabe, envisageant même d'éliminer le chef d'État algérien Boumdjian, qui est alors un allié et un protégé du roi du Maroc, pour des raisons que j'ai hâte d'évoquer dans un prochain épisode sur l'histoire de la relation bilatérale entre le Maroc et l'Algérie. Ainsi, le complot contre Hassan Thani aurait été appuyé par des hommes de Nasser, dont le directeur du journal L'Ahram, Hassan El Haykel, qui affiche publiquement son hostilité au roi du Maroc depuis des années. Ainsi, il fait imprimer un gros titre qui trahit sa complicité avec Mdbouh. Le tyran Hassan Thani est mort, le dictateur a disparu. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les journaux égyptiens sont imprimés 6 heures avant qu'il n'arrive au Maroc, et quelques heures à peine après l'arrivée des forces rebelles dans le palais de Srirat, cet article, ainsi que d'autres, titrant, et je cite, « la victoire des forces vives et nationalistes de l'armée tous ces articles se mettent à circuler dans le territoire, ce qui suggère, lorsqu'on fait le calcul, que Hassanein Heykel a été mis au courant de l'opération avant même qu'elle ne se produise et a pour projet d'entamer la propagande anti-monarchique et pro-militaire, en laissant le moins de répit possible à l'opinion publique. Car le trouble, l'émoi, l'agitation populaire est un terrain fertile à l'embrigadement. Ce précepte, les hommes politiques le connaissent bien, très bien, trop bien. De fait, il n'est pas un dirigeant pour qui ce n'est pas un vecteur indispensable, normal, de stabilité politique, et qui n'a pas tendance à en abuser. Sa Majesté Hassan Thani Larhman n'y fait pas exception. Bien au contraire, il a même tendance à confirmer la règle. Si le dirigeant du quotidien égyptien Al-Ahram a marché contre le roi lors du coup d'état de Srelat, Hassan Thani confie néanmoins dans ses mémoires une information pour le moins mystérieuse. Bien après les événements, le roi du Maroc rencontre l'adversité en la personne de Hassanein Heykel. Inutile de se leurrer, il devait y avoir une raison précise, peut-être un intérêt, un profit à tirer de cet entretien, dont Hassan Thani lui fera le serment qu'il n'en divulguera jamais la teneur. Et pour cause. Il emportera ce secret dans sa tombe, parmi des centaines d'autres. La tombe où il repose entre les quatre murs du mausolée Mohamed Khams. Retournons à Srelat. Pendant les 12 heures de siège, Medbouh est également allé communiquer de fausses informations à la radio nationale marocaine. Le roi est mort, vive le roi! Alors que les forces fidèles à Hassan Thani sont en route vers la capitale pour étouffer l'insurrection, dans les foyers du peuple marocain, les grésillements de la radio proclament déjà l'instauration de la dictature militaire sous couvert du titre de République, dont on use et abuse de par le monde, qui est l'aboutissement du plan échafaudé par Medbouh et son complice Ababou. Si ces derniers sont les deux hémisphères du cerveau de l'opération, il convient néanmoins de distinguer les méthodes et les motifs de chacun. C'est Hassan Thani lui-même qui apportera cette nuance. D'après lui, Medbouh souhaite lui garder la vie sauve. Il dira d'Ababou qu'il était, et je cite, « un soudard qui n'hésiterait pas un seul instant à verser le sang royal ». Je te propose un instant de nous plonger dans le détail du plan élaboré par ces deux protagonistes. Medbouh a pour mission de décimer la garde du palais afin de faciliter l'action d'Ababou. En effet, il se trouve au sein même de la réception. Il a, pour ainsi dire, le rôle d'une taupe, d'un espion, discute avec le roi toute la matinée comme si de rien n'était et en profite pour faire fuiter des informations à ses collaborateurs. C'est lui qui identifie le moment opportun pour ouvrir le feu sur les coups de 14h15. Ababou, lui, est chargé d'infiltrer ses soldats dans le palais, dont beaucoup, et cette information aura son importance plus tard, lors du jugement, sont issus de la caserne militaire de la ville d'Ahalmoumou, située dans la région de Fass Meknès. Ababou doit également positionner certains de ses hommes à différents points stratégiques de la capitale, comme le quartier de l'ambassade de France, puis celui du palais royal. Puisqu'apparemment ça ne leur a pas suffi d'abattre, par haine de l'aristocrate et du bourgeois sans doute, des innocents, et de mettre la vie du roi du Maroc en danger, les forces armées royales font aussi de nombreux otages, prévoyant ainsi de faire pression sur le roi. Dans les archives, on peut encore aujourd'hui retrouver des images de ces prisonniers temporaires. Des hommes, presque exclusivement, face contre terre, attachés avec ce qui semble être des cordes en cuir. Un troisième personnage important dans ce coup est le colonel Chilwati, un proche du général Oufrir, qui est alors lui-même un intime du roi Hassan Thani, et vient tout juste de le trahir en soutenant secrètement et sans doute en appuyant la rébellion. Mais le monarque n'en saura jamais rien. Il n'apprend la trahison de son bras droit et ami que bien plus tard. C'est d'ailleurs pourquoi Hassan Thani dira lors d'une interview, avec une douleur et une mélancolie apparentes,
« Mes ennemis, je m'en charge. Protégez-moi seulement de mes amis. »
D'ailleurs, encore aujourd'hui, on ignore factuellement l'étendue de l'implication d'Oufrir dans les événements du 10 juillet 1971. Elle n'est que théorique. Mais on peut sereinement spéculer sur le sujet, car pas plus d'un an plus tard, il fait enfin tomber les masques en attentant lui-même à la vie du roi. Toutefois, ce
10 juillet 1971, Oufré est tiré d'affaire. Sa proximité avec le roi lui épargne tout soupçon, car elle est d'apparence supérieure à la fraternité qui le lie aux unités rebelles. Lorsque les garnisons fidèles au roi et à la couronne débarquent dans le palais, les traîtres, pris de panique, multiplient les tentatives de négociation avec Hassan Thani, pleinement conscients de leur échec, mais sans doute nourrissant encore l'espoir vain de trouver un compromis, d'entrevoir le fruit de cette opération suicide qui leur aura tout coûté. Mais le roi ne quitte pas sa cachette, protégé par le mur de loyauté que forme sa garde personnelle. Après 12 heures d'assaut, les rebelles doivent faire face à la réalité, qui est celle d'un échec cuisant. L'impardonnable a été commis. Pour Hassan Thani, la victoire remportée est maintenant totale et doublement chérie, dès lors qu'il sait, ou du moins qu'il pense, que cet événement lui donne une excuse pour faire déborder le vase de la répression qu'il remplit déjà depuis le début de son règne. Et c'est ce qu'il fit en créant le bagne de Tazmemers. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans un prochain épisode de Terre des âmes, on étudiera le Maroc après Sreelat, les sentences des traîtres, et on forcera ensemble les portes de cette prison sinistrement célèbre, longtemps cachée sous le couvert du mythe populaire et matérialisant ce qu'il y a de plus sombre en Sa Majesté Hassan Thani, l'Arhamon, Tazmemers.